Le 18-20, c'est d'abord le premier journal de la soirée. Ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi 5 mai avec le journal de Corinne Audouin. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir, Corinne, commence par un chiffre, celui des morts du Covid.
La maladie a fait entre 13 et 17 millions de victimes. Une estimation de l'OMS qui ne prend pas en compte les morts de 2022. C'est beaucoup plus que le nombre officiel. Explication à Genève de Jérémy Lanche dès le début de ce journal. H-1 pour une réunion sous haute tension au siège du Parti Socialiste. Les 300 membres du Conseil National vont valider ou non l'accord conclu avec la France Insoumise. Plusieurs maires le disent, il faut signé, vous entendrez le maire de Villeurbanne. À suivre également, à quoi sert l'aide de la France à l'Ukraine? 2 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Une enquête ouverte à Grenoble après une lettre anonyme qui dénonce le rôle de Nordal Lelandais dans la disparition d'un homme en 2012. Et puis les piliers de barre du Mistral sont orphelins, plus belle la vie, c'est bientôt fini.
À 18h15, un jour dans le monde, dans le vote des Britanniques aujourd'hui, élection locale d'ordinaire assez inintéressante, c'est l'Irlande du Nord qui attire notre attention. Pour la première fois depuis 100 ans, le Sinn Féin, le parti nationaliste, l'ancienne branche politique de l'IRA, pourrait l'emporter. On verra si c'est une révolution ou un symbole, en tout cas c'est passionnant, c'est promis. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on parle obésité parce que les chiffres de l'OMS publiés tout récemment sont très inquiétant. L'OMS parle même d'épidémie, et elle s'y connaît en la matière. On verra ce que le Covid a gâché dans le travail lié à l'obésité. On verra comment joue la prévention, comment lutter contre le trop gras, trop sucré, trop salé, tout ça, avec vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le Covid, Corinne, aurait donc fait entre 13 et 17 millions de morts dans le monde.
C'est-à-dire un être humain sur 500, la pire pandémie depuis un siècle, depuis la grippe espagnole de 1918. L'estimation vient de l'Organisation mondiale de la santé et c'est trois fois plus que le nombre de morts officiels de la pandémie rapportés par les États. L'estimation est déjà en sans doute contestée par certains. Alors comment arrive-t-on à ce chiffre? En direct de Genève, le siège de l'OMS, nous retrouvons Jérémy Lanche. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Et l'OMS compte en fait les morts directes et indirectes du Covid.
Oui, c'est ça. La nouvelle estimation comprend tous les décès liés au Covid, c'est-à-dire les personnes qui sont mortes directement à cause du virus, mais aussi les morts indirectes sont par exemple les personnes qui souffraient de cancer ou de maladies chroniques, qui n'ont pas pu se faire soigner à cause de la saturation des systèmes de santé. Obtenir un décompte exact est en fait presque impossible, explique le directeur adjoint de l'OMS, Ibrahima Socéphale.
Il faut bien comprendre que même en temps normal, donc c'est pas tous les décès qui sont rapportés. Ensuite, durant la pandémie, il y a des pays pour lesquels même les décès directement liés à COVID-19 n'ont pas été suffisamment rapportés, soit parce que les personnes n'ont pas été testées, sont décédées dans des conditions où il n'y avait pas possibilité de faire les tests à temps réel.
Dans le détail, 10 pays seulement concentrent 70% de la surmortalité observée, dont les États-Unis. Mais c'est surtout l'Inde qui est concernée avec 4,7 millions de morts du Covid en 2 ans de pandémie. C'est 10 fois plus que ce que New Delhi a bien voulu rapporter. L'Inde qui conteste la méthodologie de l'OMS. Autre observation, plus d'hommes sont morts du Covid que de femmes, 60% environ. Et puis sans surprise, les personnes âgées sont également surreprésentées parmi les victimes.
Jérémy Lanche, merci, correspondant à Genève de RFI. Cette fois, il ne s'agit pas d'un virus, mais d'une bactérie, l'Escherichia coli. On apprend que 2 autres gammes de pizzas de la marque Buitoni ont possiblement été contaminées. De nouvelles plaintes visent des pizzas Four à Pierre et Bella Napoli. En mars dernier, Buitoni avait retiré la gamme Fresh Up après une 50aine de cas de contamination à la bactérie E. coli. On y revient dans le journal de 19h.
Et dans l'actualité politique ce soir, voilà que La République En Marche change de nom.
Et le parti présidentiel s'appellera désormais Renaissance. Et il fera partie d'une nouvelle confédération baptisée Ensemble, aux côtés du Modem et du parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Horizon. Le front majoritaire s'affiche uni pour aborder les législatives. Horizon a obtenu 58 circonscriptions, une 100aine pour le Modem et 400 pour le parti d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, à Ivry-sur-Seine, au siège du Parti Socialiste, on se prépare à un Conseil national houleux, au programme à partir de 19h et sans doute jusque tard dans la nuit, la validation de l'accord signé hier avec la France Insoumise. Alors plusieurs figures du PS ont donné de la voix pour dénoncer ce rapprochement de François Hollande à Bernard Cazeneuve, mais de nombreux maires y sont favorables. Martine Aubry à Lille, Benoît Payan à Marseille et Cédric Van Stivendel, le maire de Villeurbanne, joint par Nino Clouy.
Cet accord, il est appelé par le peuple de gauche. Les gens souhaitent l'union de la gauche. On a dit nos réserves, on a dit nos points et nos lignes rouges, comme par exemple sur l'Europe. Mais cela a été entendu dans l'accord que le Parti Socialiste propose au Conseil National de signer ce soir. Donc aujourd'hui, il nous semble que les conditions sont réunies pour cet accord et que c'est de toute façon un appel qui nous est fait à notre responsabilité. Donc c'est un souhait que cet accord soit voté ce soir par le Conseil National en responsabilité pour répondre aussi à celles et ceux qui votent pour la gauche depuis longtemps et qui n'ont qu'une aspiration, c'est que finalement nous soyons réunis. Pour faire un accord, vous ne pouvez pas regarder que de là où vous êtes. Moi, je suis maire de Villeurbanne. J'ai été un des premiers maires de France à faire un accord avec toutes les forces politiques, y compris la France Insoumise. Et bien sûr que je suis profondément attristé par la situation parce que ma candidate n'est pas retenue dans cet accord. Mais après, à un moment, il faut regarder là où on est localement et puis il faut aussi être capable de prendre un peu de hauteur, un peu de vision. Et si cet accord, c'est ce qui permet de reconstruire la gauche au niveau national, et bien à un moment, il faut aussi savoir prendre ses responsabilités.
Cédric Van Stevendel, le maire socialiste de Villeurbanne. Un braquage en plein jour près de la place Vendôme à Paris. Quatre hommes casqués et armés ont attaqué une boutique d'horlogerie et de joaillerie Chanel avant de prendre la fuite en deux roues. Il n'y a pas de blessés, on ignore le montant du butin. Et l'on reparle de Nordal Lelandais. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête au sujet de la mort d'un homme près de Grenoble en 2012. Rappelons que Nordal Lelandais a été condamné pour le meurtre du caporal Arthur Noyer et pour celui de la petite Maëlys. Une lettre anonyme envoyée en février dernier dénonce son implication dans la disparition d'un homme de 43 ans dans le massif de la Chartreuse. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Et l'enquête est confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble.
Oui, c'est une association de recherche des personnes disparues qui a reçu cette lettre tapée à l'ordinateur. À ce moment-là, Nordal Lelandais fait la une. Il est jugé à Grenoble pour le meurtre de Maëlys. Selon Bernard Valézy, vice-président de l'association, l'auteur du courrier se présente comme un ancien ami du meurtrier. Il l'appelle même par son surnom, Nono. Il raconte qu'en 2012, ils promenaient leur chien ensemble dans le massif de la Chartreuse quand ils ont croisé un homme qui marchait au milieu de la route. Lelandais serait alors descendu de voiture pour l'insulter avant de lâcher les chiens à ses trousses. L'association a découvert que le lieu et la date de cette scène coïncident avec la disparition d'un homme autiste de 43 ans dont le corps a été retrouvé au pied d'une falaise. Les gendarmes vont désormais tenter d'identifier l'auteur de cette lettre, mais prudence, depuis l'interpellation de Nordal Lelandais, de nombreuses enquêtes ont été ouvertes pour savoir s'il était lié à d'autres disparitions, des enquêtes qui n'ont jamais rien donné.
Merci Mathilde Vinceneux. On se souvient de l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd, c'était en 2018. De la prison de Réau à l'aide d'un hélicoptère qui s'était posé dans la cour d'honneur. Et bien le braqueur récidiviste qui avait été rattrapé 3 mois plus tard sera jugé aux assises pour cette évasion aux côtés de 10 autres accusés dont 2 de ses frères et 3 de ses neveux jugés pour complicité.
En Ukraine, l'espoir d'une trêve à Mariupol n'a pas duré.
Selon un commandant ukrainien présent sur le site d'Azovstal, les Russes ne respectent pas leurs promesses. Ils avaient annoncé une trêve humanitaire pour évacuer les civils dans cette dernière poche de résistance. Alors en face, l'armée russe se dit toujours prête à assurer cette évacuation, selon Vladimir Poutine. Sur le terrain, l'offensive russe vers l'Est se poursuit, malgré les sanctions toujours plus nombreuses et l'aide massive apportée à l'Ukraine. Une conférence internationale des donateurs réunie à Varsovie aujourd'hui, a permis de récolter plus de 6 milliards d'euros. Côté français, l'aide totale depuis le début de la guerre se monte à 2 milliards de dollars. La dernière rallonge est de 300 millions. Mais à quoi sert précisément cet argent? Les explications de Bertrand Galichet.
Une aide annoncée en dollars, le chiffre global de 2 milliards frappe les esprits. Cet apport de 300 millions ne concerne pas le volet militaire du soutien français à l'Ukraine. Après avoir, au début de la guerre, financé les organisations internationales et les ONG sur le terrain, la solidarité de la France continue de s'exprimer sur le plan humanitaire, mais pas seulement, explique Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée lors de la conférence des donateurs.
Déjà, 800 tonnes de biens humanitaires et médicaux ont été acheminés en Ukraine et dans les pays de la région. La France est au rendez-vous aujourd'hui encore. Au-delà de l'aide humanitaire, nous avons en effet mis à disposition du gouvernement ukrainien des dispositifs d'aide budgétaire directe et nous continuons de soutenir et de garantir les investissements et des exportations en Ukraine.
Des éléments indispensables à la reconstruction de l'économie ukrainienne à un moment critique et pour renforcer sa résilience, estime Emmanuel Macron, car l'aide apportée par la France vise désormais à maintenir à flot un pays qui subit, au-delà du bilan humain, des dommages économiques considérables. Les pays donateurs sont conscients qu'il faut inscrire le soutien à l'Ukraine dans le long terme.
Bertrand Galichet, et puis la solidarité se décline aussi dans l'aide aux réfugiés. Illustration dans les Pyrénées-Orientales, au Barcarès. 3 adultes et 9 enfants venus d'Ukraine sont hébergés depuis la fin du mois de mars. Et le couple formé par Marina et Ramon a même été embauché au camping. C'est un reportage de Suzanne Chaudjahi de France Bleu Roussillon.
Pour Ramon, direction le service technique du camping, la maintenance.
J'aime vraiment travailler ici. C'est une bonne équipe avec de bonnes personnes.
Il est encadré par Patrick, le responsable du service technique.
Eh bien, il est très gentil, très vaillant. Il demande à chaque fois de travailler. Il est dévoué pour tout. On a quelques problèmes de langue avec lui, mais bon, on a heureusement qu'on a le téléphone.
Son épouse, Marina, travaille à l'hébergement, c'est-à-dire qu'elle prépare les mobilhomes avant l'arrivée des vacanciers. Le couple fait désormais partie de l'équipe, comme les 70 autres salariés. C'est ce que dit la gérante du Floride et l'embouchure, Sylvie Michel.
Finalement, je trouve qu'ils se sont super bien adaptés, tous ces enfants qui sont là, et ils sont ravis de voir nos petites mascottes. On en prend soin, quoi, parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur, la façon dont ils sont arrivés ici, avec rien. Tant qu'ils sont bien, c'est le principal.
Le travail comme échappatoire et l'inquiétude qui ronge toujours à 3000 km de chez eux et de la guerre.
De temps en temps, on le laisse téléphoner, ils sont préoccupés.
Ma maison me manque vraiment, mais ma famille et moi allons bien, nous sommes en sécurité et c'est la chose la plus importante pour moi.
Et chaque matin, ils emmènent les enfants à l'école à Saint-Laurent-de-la-Salanque, comme un semblant de vie normale.
Reportage pour France Bleu Roussillon de Suzanne Chaudjahi.
Et puis, Corinne, clap de fin au Mistral, le plus célèbre quartier imaginaire de la télévision.
Eh oui, plus belle la vie, c'est fini. Le feuilleton Fleuve, diffusé chaque soir sur France 3, va s'arrêter en novembre. Après 4500 épisodes tournés à Marseille, l'aventure s'arrête. Et ça va faire des malheureux, François Ballarin.
Bonsoir. Et oui, les rumeurs étaient persistantes depuis quelques semaines. Confirmation de France Télévisions cet après-midi. Dernier épisode diffusé au mois de novembre prochain. La raison invoquée par la chaîne publique, le besoin de renouveler l'offre. Il faut dire que les audiences ont baissé. De pic à 7 millions de téléspectateurs, la série est passée à 2,5 millions de fans à se retrouver devant la télé tous les soirs à 20h20.
Mais Plus belle la vie reste à ce jour la série française quotidienne la plus longue de l'histoire de la télé, François.
Myrta, Luna, Mélanie, Céline, Blanche, Roland ou encore Thomas ont débarqué sur nos écrans en septembre 2004. Avec Plus belle la vie, France Télévisions a complètement relancé le genre du feuilleton populaire.
Salut papa.
Je vais bientôt déménager pour m'installer à Bruxelles.
Ça vous dit d'aller faire un tour à la plage ?
Non, parce que Kylian aussi, il a mat.
Kylian, il a surtout une bouche pour répondre tout seul, en fait.
Et voilà, la clé du succès de la série, c'est qu'elle se veut un miroir de notre société, de ses changements. Le tout à travers la vie de ses personnages, racisme, homosexualité, transidentité, handicap, viol, autant de thèmes controversés abordés dans cette série. Ce sera donc le cas encore pendant 6 mois.
Ça vous laisse sans voix, Fabienne Sintès. On va laisser jeter un petit vin au bar du Mistral pour fêter ça.
Écoutez, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Corinne. En attendant, à tout de suite dans Un jour dans le monde. Et vous allez notamment nous raconter l'histoire incroyable de cette évasion. Ça se passe dans l'Oklahoma. Aux États-Unis, ce soir, nous allons en Irlande du Nord, qui vote aujourd'hui comme le reste du Royaume-Uni, mais surtout qui peut choisir de porter à sa tête le Sinn Féin, et ce serait une première. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne, je vous le remets dans l'oreille tout de suite, le standard est ouvert. Allez-y, on va parler d'obésité ce soir, dans un rapport très alarmant de l'OMS, qui parle même d'épidémie, qui donne des chiffres européens, qui ont de quoi nous inquiéter. Vous imaginez bien que les confinements n'ont rien arrangé. On verra aussi, grâce à vous et vos questions, comment lutter contre ceux qui fabriquent des aliments trop sucrés, trop salé, trop gras. Et tout ça, bien sûr, ça se passe au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, peut-être.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, bonsoir. Encore de la pluie en Corse, Sébastien.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. La nuit et la matinée de demain seront encore pluvieuses en Corse avec des pluies localement soutenues. Un début d'accalmie va se dessiner l'après-midi. Des averses pourront quand même se produire encore l'après-midi, notamment sur la moitié nord. Quelques averses se développeront aussi au sud de la Garonne, entre le Massif central, les Alpes et l'arrière-pays provençal, avec quelques orages sur les Alpes du Sud. Partout ailleurs, le temps sera sec demain. La journée sera même globalement bien ensoleillée après dissipation des grisailles matinales. Le soleil aura parfois du mal à percer près de la Manche, avec des nuages bas pouvant rester tenaces. Et puis le ciel va tout de même devenir plus nuageux l'après-midi autour de la Méditerranée, en Occitanie et en Bretagne.
Avec des températures en hausse, Sébastien.
Oui, après cette petite fraîcheur qui a surtout touché les régions de l'Est, la douceur va progressivement s'installer. La semaine prochaine prendra d'ailleurs des saveurs d'été. Dès demain, les températures maximales dépasseront quasiment partout la barre des 20 degrés. 21 degrés pour Rouen, Lyon, Dijon, Limoges et Toulouse. 22 degrés à Rennes, Bourges et Strasbourg. 23 degrés pour Paris, Cognac et Bordeaux. Jusqu'à 25 degrés à Marseille et à Montpellier. En revanche, prévoyez seulement 16 degrés au Havre et 18 degrés à Bastia. À noter aussi beaucoup de vent demain autour du golfe du Lion.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup. Sébastien, on se retrouve tout à l'heure après 19h.